L'immobilier de tourisme au cœur des territoires, journée découverte en Savoie avec l'association Maison Familiale Fleur et Neige, à suivre depuis Aussois près de Modane sur Radio Imo et Radio Territoria.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours ici dans ce bon village d'Aussois. On a beaucoup de chance parce qu'il neige, il commence à faire un peu beau. Et franchement, c'est un paysage à couper le souffle. Donc, je ne peux que vous dire une chose. Venez ici à Aussois, dans un village de vacances, Fleur et Neige. On est heureux d'y être accueillis. Voilà, sur le plateau, on a une interview avec des personnes qui justement permettent, finalement, c'est clair, de faire en sorte que tout ça ait une réalité. Puisqu'on a le président de la Fédération Cap France qui est avec nous, André Monchy, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien. Quand on est ici, dans ces conditions-là, tout va très bien.
Voilà. Donc on peut aller ici à Aussois ou on peut aller aussi à Trégarvan, par exemple.
Par exemple, je vois que vous avez regardé. Voilà. Oui, on a 80 sites en France, Cap France, 80 sites répartis sur le territoire entre mer, campagne et montagne.
Alors, on va parler de la Fédération de Cap France. Hein. Je rappelle que Cap France a été créée en 1949, on va en parler tout à l'heure. Dominique Girard est avec nous, le président de l'association Fleur et Neige, ici à Aussois.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, on a une super inauguration. On est très contents d'avoir eu autant de monde avec nous.
Ouais, c'est un sacré projet en tout cas. Hein. Ouais. On va en parler tout à l'heure. Et bien sûr, celle par laquelle, effectivement, nous sommes présents aussi, on est ravis d'être avec elle, Nadia Bouillet, qui est membre du conseil d'administration, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, Nadia?
Ça va très bien, Sylvain.
Ouais, ça me fait super plaisir alors d'être là. Bon, en plus, franchement, ça valait le coup de faire un train de nuit pour arriver ici quand on voit ce paysage. Je vais commencer par vous, André. Alors, André, vous êtes à la tête de Cap France. Je voudrais juste rappeler que Cap France, c'est une association, hein, qui a été
créée. Oui, c'est une fédération, donc une association, oui.
Qui a été créée en 1949.
1949.
Vous faites partie de l'association parce que vous présidez un village vacances, hein, qui est à Trégarvan, donc dans le Finistère.
Oui, je suis un adhérent de base Cap France, effectivement. J'ai un village vacances dans le Finistère, à Trégarvan.
Alors, si je vous dis, par exemple, quels sont les sites les plus jolis, par exemple, le quartier de Kerguentic, ça vous dit quelque chose?
Ah, ça, c'est en Bretagne, c'est sûr.
Ouais. C'est pas loin de chez vous. Ouais. Voilà. Vous avez la pointe aussi, vous avez une très jolie pointe, par exemple, qui est la pointe de Penhir.
Ah oui, bah, dans la presqu'île de Crozon. Oui.
Et vous avez le Cap de la Chèvre, qui est extraordinaire.
Après la Savoie, les plus beaux sites en France, oui.
Alors, André, vous êtes à la tête donc, de Cap France. En quelques mots, Cap France, alors on sait que c'est une association créée en 1949. Mmh. On sait que le principe de l'association pour cette fédération-là, c'est de permettre aussi à la plupart d'avoir des vacances de qualité dans un cadre familial. D'ailleurs, au début, ça s'appelait les maisons familiales. Oui. Et après, c'est devenu les villages de vacances. Mmh. Bon, c'est contemporain. Voilà, c'est un développement un peu anthropologique de l'usage. Justement, que l'on fait des vacances. Rappelez-nous un petit peu la jeunesse de Cap France.
Alors, en fait, si ça s'appelle les maisons familiales, c'est une raison, parce que c'est venu d'un mouvement qui s'appelait les maisons familiales rurales, qui étaient des lieux de formation au départ, hein, où on formait, aujourd'hui, qui existe encore aujourd'hui, hein, qui forme des aides à la personne ou des gens pour tous les travaux dans le territoire. Donc les maisons familiales rurales, c'était des organismes de formation. Et puis ça a commencé comme ça. L'été, ces sites étaient disponibles et certains précurseurs, ils faisaient des vacances, c'est-à-dire ils permettaient à des familles de venir en vacances dans ces sites maisons familiales rurales. Ensuite, c'est pour ça que le nom maison familiale vient de là, en fait. Hein. Parce que les maisons familiales rurales existent encore. Mais souvent, on s'est détaché des écoles.
Ah oui, bien sûr.
On s'est détaché des écoles. Souvent, il y a l'association qui gérait à la fois la maison familiale rurale, école et la maison familiale de vacances. Ils se sont séparés. Ils ont fait deux associations. Et on a encore des sites aujourd'hui qui gèrent les deux. À Cap France, on a encore des sites qui ont la maison familiale rurale, l'école et le village vacances, qu'on appelle le village vacances aujourd'hui.
Alors, toujours avec un principe, la députée tout à l'heure l'a rappelé, hein, c'est du tourisme, c'est des vacances, mais ça reste quand même dans le cadre d'une économie sociale et solidaire. Parce que la gouvernance est toujours associative, le patrimoine foncier immobilier appartient à l'association, Alors, ce qui appartient à l'association appartient à tout le monde.
Alors, historiquement, c'est exactement le schéma que vous dites. Aujourd'hui, il y a une petite évolution quand même. Parfois, les associations sont amenées, pour faire des gros investissements, à créer une SCI ou ils mettent les murs dans la SCI parce que...
Mais la SCI, d'ailleurs, est possédée 100% par l'association.
Oui.
D'ailleurs, le mandat de la SCI de Trégarvan, c'est vous qui en êtes le président.
Oui.
Et elle fait partie intégrante de l'association. Effectivement, c'est un bon modèle. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, parce que vous avez une chose qui ne m'a pas échappé du tout, c'est que vous avez parlé aux banquiers. Hein, vous avez parlé aux banquiers en disant « Eh oui, je vous comprends les banquiers, il faut que vous soyez sûrs, etc. etc. » Parce qu'effectivement, la notion de risque est importante. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que l'approche, on va dire entre guillemets, sans péjoratif, hein, l'approche sociale du village de vacances, elle est réelle, elle est dans l'ADN de l'association.
Mais il faut bien regarder ce qu'on met derrière le mot social.
Voilà.
Nous, on a une utilité sociale. Hein, sociale, souvent, les gens associent ça. On va on va faire des vacances pour les gens qui n'ont pas d'argent, en fait, hein, ou les pauvres. Oui, on le fait aussi. Mais,
et c'est bien, d'ailleurs. Et c'est une bonne chose.
Et je peux vous dire, le directeur d'ici, Christophe, était en vacances chez moi, aux vacances de Toussaint, et on accueillait en même temps un groupe du Secours Populaire, 50 jeunes défavorisés du Pas-de-Calais, qu'on accueille depuis 12 ans, la 12e année. On accueille, quand j'y accueille, on invite, enfin, on offre une semaine de vacances. Ça, c'est notre côté social, si vous voulez. Mais quand je parlais d'utilité sociale tout à l'heure à la tribune, c'est qu'on pense que dans notre société d'aujourd'hui, on a un rôle social quand on peut permettre aussi à des familles qui travaillent, qui sont pas des travailleurs pauvres obligatoirement, qui sont des travailleurs tout simplement.
Des classes moyennes.
Des classes moyennes, de leur offrir un produit, si vous voulez, où toute la famille peut s'y retrouver et vraiment créer des vacances et créer des vacances qui ont du sens. Voilà. Alors aujourd'hui, tout le monde parle de vacances qui ont du sens. Vous regardez toutes les publicités à la télé. Nous, on le fait depuis tout le temps. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure.
Alors, il y a d'autres initiatives qui ont été faites, effectivement, parce qu'à l'époque, il y avait les VVF,
oui.
Village Vacances Famille,
oui.
Devenu Bel en Bras.
Ils se sont séparés, en fait. Il y a une partie qui est restée chez VVF et l'autre partie Bel en Bras.
D'ailleurs, on avait un ancien grand patron de syndicat qui était devenu un président
emblématique. Oui, tout à fait, complètement.
De Bel en Bras.
Oui, la CFDT.
Absolument.
CFDT, oui.
Mmh. Oui. Et donc, effectivement, c'est intéressant de voir à quel point cette notion, effectivement, vacances, économie sociale, quand on dit économie sociale, encore une fois, dans le sens où vous l'avez rappelé,
oui.
André. Hein,
oui.
C'est important, vous l'avez rappelé. Mmh. Je veux dire, c'est pas parce qu'on parle de social, les amis, qu'on est forcément, genre, pauvre, stigmatisé, et qu'on a droit, par exemple, aux moches, aux pas confortables, etc. Parce que, comme dirait Nietzsche, le beau est aussi un élément du bien.
Ah,
et
oui.
Le bien, c'est le social.
Tout à fait.
Je vais parler avec vous. Vous êtes à la tête, c'est Dominique Girard qui est à la tête de deux associations ici. Pourquoi vous l'avez fait? Parce que vous êtes aussi un usager. Vous venez ici en vacances.
Moi, je suis venu ici, je crois que j'avais 6 ans la première fois. Je suis venu avec mes parents, je suis venu avec mes enfants. Donc, je connais cette maison depuis presque pas la naissance, mais pas loin.
Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une tradition familiale, vos parents vous ont amené ici?
Oui, mes parents m'ont amené ici, on alternait avec une autre maison familiale de vacances qui se situait à Méribel, donc on alternait entre les deux maisons. Et mon père était aussi au conseil d'administration de l'autre maison familiale, donc on a cet ADN d'essayer de faire vivre ces
Bon, je vais pas vous faire l'outrage de vous demander en quelle année vous aviez 6 ans la première fois que vous êtes venu ici.
C'est pas un problème.
Mais ça veut dire que vous étiez avec vos parents quasiment dès l'origine de la maison, quoi, quasiment.
Pas très loin. Oui,
pas très loin. Voilà.
Oui, tout à fait.
Pas très loin. Oui, à quelques dizaines d'années, bien sûr. Pourquoi vous le faites? Vous le faites pour préserver un équilibre? Vous dites, je suis l'usager, c'est-à-dire que je viens ici avec ma famille en vacances, et en même temps, je vais donner de mon temps, parce que je rappelle que les membres du conseil d'administration travaillent bénévolement pour l'association.
Tout à fait. C'est vraiment l'envie de donner la possibilité à tout le monde de prendre des belles vacances. Et franchement, s'investir là, c'est aussi donner du temps pour que nos valeurs de famille et nos valeurs de vacances, pour faire découvrir la montagne à tout le monde, c'est quand même le pied, quoi. Quand on voit des gens heureux en vacances avec nous, On a dit, ça y est, on a réussi.
Vous venez combien de fois par an ici, Dominique ?
En généralement, deux fois.
Deux fois. Été, hiver ?
Non, je suis plutôt été parce que je suis très mauvais skieur.
L'été, ça doit être magnifique ici.
Alors, ouais,
la faune, la flore, les randonnées.
Exactement.
Il y a beaucoup d'activités. Hein.
Oui, l'été, il y a vraiment deux parties. Quand vous êtes en pleine saison, mois de juillet-août, vous avez énormément de randonnées, beaucoup de possibilités de... Il y a une ambiance extraordinaire dans la maison parce qu'elle est généralement pleine. Donc ça se passe super bien. Au mois de juin, juillet, c'est un peu différent. Il y a moins de monde. Mais par contre, on a une découverte de la faune et de la flore qui est encore complètement différente. Et elle est encore plus belle, la montagne, au mois de juin.
Nadia, vous avez découvert la maison il y a quelques années maintenant. Hein. Vous venez depuis quoi, une bonne dizaine d'années ?
Depuis 10 ans.
Et en fait, on vous a trouvé tellement bonne cliente qu'on vous a demandé d'entrer au conseil d'administration.
Oui, c'est un peu ça. Donc, merci à Dominique. Et puis, effectivement, comme le disait André tout à l'heure, je pense que c'est le plus qu'il y a ici, c'est des formules en pension complète. Hein, ce qui fait que pour les familles avec les parents qui travaillent toute l'année, on est vraiment en vacances quand on vient ici. On a des activités, on n'est pas obligé d'y adhérer, mais tous les jours, l'été, il y a deux randonnées de proposer, facile un peu et un peu plus difficile. Nos enfants sont avec d'autres enfants du même âge, donc se font des amis. Et puis nous-mêmes, on retrouve en fait d'autres personnes qui viennent en vacances en même temps. Et donc, voilà, comme le disait Dominique, il y a une très très bonne ambiance et c'est des vraies vacances pour les familles.
Alors justement, ce côté, on va dire, déconnecté d'une certaine réalité, j'allais dire, économique, hôtelière, classique, privée, c'est aussi un ciment culturel, c'est aussi un lieu de mélange, un lieu où les gens se rencontrent, c'est un lieu de sociabilité. Dont on ne trouverait pas forcément les mêmes aspects dans un univers, on va dire, standard, hôtelier, classique.
André, nos maisons, c'est typique de ce qu'on appelle le brassage social. Vous pouvez être, on a de tout chez nous, hein, on a des ouvriers, mais on a aussi des médecins. Moi, je reçois des médecins. Et donc, tout ça, il n'y a pas de différence quand ils sont chez nous. Ils font les mêmes soirées, ils ont les mêmes repas. Et c'est vrai, quand ils vont faire la même randonnée. Hein, et quand on parle de brassage social, chez nous, ce n'est pas des mots, ça se pratique tous les jours. Parce qu'il est là, le brassage social. On a toutes les catégories de Français.
Ça serait génial d'adapter finalement le modèle en fait, de ce village de vacances familial, de l'adapter à la société. On en aurait bien besoin.
Ça oblige, parce que en fait, effectivement, au fil des années, on a fait en sorte que les gens puissent aussi avoir leur indépendance. Ils ne veulent pas faire une activité, ils font tout seul. Mais il y a quand même, on est quand même obligé d'accepter l'autre, en fait, puisqu'on est quand même dans une forme de collectivité. Hein, même si on donne le choix de ne pas être tout le temps collé, mais c'est une forme de collectivité et ça fait du bien aux adultes dans notre société comme ça fait du bien parfois aux enfants quand on les envoie en colo ou en classe.
Alors, est-ce que c'est une forme moderne du kolkhoz ou du kibboutz versus 21e siècle ? Non, on n'ira pas jusque-là, mais quelque part, le côté collectif, alors ce que vous dites a plus que du sens, surtout quand on vient de passer le confinement. Mm-hmm. Après deux années, on ne s'est pas vu.
C'est ça.
Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait... Aujourd'hui, il faut être très clair, les gens en ont marre de visio, on en a marre de parler au téléphone. Ils sont à deux doigts de se faire greffer un casque à la place des oreilles. Mm-hmm. Et dès qu'on a eu l'occasion, je ne sais pas si vous avez remarqué, de se retrouver, mais tout le monde y est allé, mais bien sans sûr. Problème. Bien adieu sûr. Le numérique, vivement qu'on se retrouve. Bien ça sûr. Fait du bien, ça, Dominique.
Complètement. Et je voudrais juste revenir, rebondir sur ce qu'a dit André, là. Les randonnées que l'on fait quand on a des gens qui arrivent, qui ne connaissent pas la maison familiale. Le premier jour, ils sont un peu inquiets. Il y a des anciens, il y a des nouveaux. Vous faites une randonnée avec tout le monde. Vous en bavez ensemble. Je peux vous dire que tout de suite, le lien, il se crée très, très vite. Et franchement, c'est
la naissance de vraies amitiés. En fait.
Exactement. Et c'est ce que je disais dans mon discours tout à l'heure. On a vu même des familles se créer après. Des gens qui reviennent après, qui se sont connus ici. Donc,
vous avez rencontré Mme Girard ici ou pas ?
Non.
Ça aurait pu.
J'ai des amis qui se sont rencontrés là. Oui.
Alors, Nadia, vous avez des grands-enfants. Vous avez trois beaux grands-enfants. Et justement, ils sont venus ici. Ils avaient quoi, 8-10 ans ?
Oui, c'est ça. Et ils sont continués à venir.
Est-ce qu'ils viendront ici après ?
Ils sont venus cet été avec nous.
Ils sont venus cet été.
Les deux d'entre eux sont majeurs.
D'accord. Est-ce qu'ils reviendront après pour prendre le relevé comme l'a fait Dominique ? relever le flambeau familial.
C'est ce que j'espère, en tout cas.
Je trouve ça super sympa. Très sympa, très agréable, ce type d'initiative dans notre pays. On n'en parle pas beaucoup, vous ne trouvez pas qu'on n'en parle pas beaucoup? Parce que souvent, on parle de vous savez, les villages, vacances, un peu comme, comme une offre hôtelière. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait une offre hôtelière pour remplir, il faut que ça tourne. Mais il y a un supplément de quelque chose, André. Ça serait bien de dire qu'il y a aussi un supplément de quelque chose, que ça fait du bien à tout le monde.
Ah ben c'est sûr, notre premier métier c'est de l'hôtellerie quand même, hein,
oui, non,
puisque
oui,
aujourd'hui on va être dans une chambre comme vous les avez vu tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est vraiment dans notre ADN, moi je recrute des directeurs parfois, ou je participe à des recrutements de directeurs, en fait ce qu'il faut pour travailler dans un village vacances, déjà pour être salarié il faut aimer les gens, vous ne pouvez pas le faire autrement, même le directeur qui est là, qui souvent est avec sa femme, on vit avec les gens. Si, moi j'ai toute ma vie, j'ai fait ça. Si vous n'aimez pas les gens, vous ne pouvez pas être directeur d'un village vacances, vous êtes directeur d'un hôtel éventuellement. Non mais sérieusement.
Non, c'est vrai ce que vous dites.
Vous êtes directeur d'un hôtel, c'est pas un hôtel, c'est bonjour madame, monsieur, voilà la clé, vous avez bien dormi et vous partez à quelle heure le matin, vous prenez le petit déjeuner, voilà c'est tout. Alors que nous on vit avec les gens une semaine, 15 jours. C'est-à-dire que le matin on les voit au petit déjeuner, on va manger avec eux, on va manger dans la même salle.
Parce que vous dans votre profession à vous.
Alors moi j'étais un ancien instituteur au départ.
Vous étiez instituteur.
J'ai fait l'école normale d'Arras, mais je suis rentré là-dedans il y a 30 ans, hein, donc un peu plus de 30 ans. Donc effectivement mon métier c'est ça, directeur du village vacances.
Donc en fait vous êtes quelque part alors. Bon, je vais faire une analogie, mais vous savez, les jeunes partaient en colonie de vacances, il y avait les classes de neige, il y avait pas mal de choses. Cet état d'esprit collectif, est-ce qu'il n'est pas, vous qui êtes issu de l'instruction publique, justement, est-ce qu'il n'est pas consubstantiel de notre culture française, de notre identité? Je n'ai pas d'identitaire, identité.
Ben, je pense certainement que si.
Quelque chose.
Oui, il y a sûrement quelque chose. D'ailleurs, quand vous avez fait, par exemple, ou des enfants, ils ont été, par exemple, moniteurs de colonies de vacances, hein, nos jeunes, hein, nos enfants, qui ont 16, 17, 18 ans, qui sont rentrés dans ce système-là, les plus beaux souvenirs adultes, c'est ceux-là.
Ouais, c'est vrai.
Franchement, c'est parce que déjà à l'époque on avait encore la pureté de la vie, quoi. On n'est pas on n'est pas pollué par la vie et on a vécu une expérience diverse. Et je pense qu'il y a sûrement au fond de nous-mêmes ce besoin à un moment donné de se retrouver comme ça. C'est pour ça que quand je parlais ce matin, on a une nécessité sociale. C'était pas des mots dans des mots. C'est vraiment, je pense que ça fait partie un peu de notre ADN d'avoir besoin à un moment donné de vivre des choses ensemble.
Voilà. Alors justement, on va parler un peu plus concrètement justement de ça, Nadia. Tout ça, ça se finance. Hein. Ça se finance les banquiers ont beaucoup d'amis. Hein, c'est connu.
Mm-hmm.
C'est connu. Les banquiers ne sont pas philosophes. Hein. 2 100 000 euros d'investissement quand même. Hein. C'est vraiment pas neutre.
Oui, c'est un investissement.
Est-ce que
important.
Ça a été compliqué à monter?
Alors, c'est à Dominique qu'on doit le montage, à Bruno aussi, qui est le trésorier de l'association. Et je pense qu'on a eu aussi des aides, ça a été dit tout à l'heure, des subventions de la région notamment, qui ont permis d'avoir une plus grande confiance et une plus grande facilité à accéder aux emprunts derrière. Donc,
ça a été facile d'avoir les aides ou pas? Franchement, hein.
Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est d'avoir l'accord de la région pour une subvention. Et là, à partir du moment où les banquiers se sont un peu plus déridés.
Vous avez eu beaucoup de soutien aussi de Rosenhart.
Oui,
c'est
elle qui
vous a beaucoup aidé.
Qui nous a indiqué... Déposez vos dossiers en juin, sinon vous n'aurez pas le.
Eh oui.
Vous n'aurez pas.
Parce qu'il faut savoir.
C'est tout bête, il faut connaître.
Mais voilà. Il faut savoir faire. C'est pas évident.
Juste pour le budget, ce que je voulais dire, c'est que on a mis 2 100 000, mais la rénovation n'est pas complète.
Ah, il y a encore.
En gros, c'était 3 millions d'euros au total pour tout finir.
Ah, quand même.
Voilà. Donc,
ah, quand même.
Donc on a ça coupé.
Ça s'amortit en combien de temps, Dominique?
20 ans.
Ah, il faut 20 ans.
Ouais,
c'est un vrai sujet, ça, la réno, les 80 villages de Cap-France.
Alors, nous, on a à Cap-France, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a aussi un service de formation de nos directeurs, de nos présidents. On fait des réunions. Nous étions à Saint-Moins la semaine dernière, où on avait l'université des directeurs, une université annuelle, où on réunit tous nos directeurs, où on leur explique un peu comment on parvient à faire de l'investissement. Ça se prépare. C'est d'abord dans la réflexion sur la gestion. Il faut être très bon gestionnaire. Les associations ne l'ont pas toujours été dans le passé, par manque de formation, par argent facile. Aujourd'hui, il faut avoir des ratios de gestion qui sont vraiment tirés au cordeau.
En fait, il faut gérer l'association comme une entreprise, sauf qu'elle n'a pas la même orientation.
Mais bien évidemment, mais il faut la gérer comme une entreprise. Une masse salariale, dans nos métiers, la masse salariale, ça peut aller jusqu'à la moitié du chiffre d'affaires. Donc il faut faire attention. Il faut mettre les bonnes gens où il faut quand il faut, mais il ne faut pas en mettre quand il ne faut pas. Il faut rénover nos maisons, il faut faire le bon prix aux vacanciers. Ça a un prix. Aujourd'hui,
est-ce que les prix sont très honorables par rapport à, entre guillemets, l'hôtellerie classique?
Mais bien évidemment. Si vous allez à l'hôtel, vous comptez les deux repas, le petit déjeuner, l'accompagnement qu'on fait auprès des enfants, toutes les sorties randonneur, bien sûr qu'on a un prix qui est super... abordable.
Mais
il faut bien sûr, ça reste très abordable, mais il faut quand même pas tomber trop bas, parce que sinon on peut pas faire l'investissement.
Mais non, parce qu'il n'y a pas de marge dégagée pour pouvoir le faire.
Moi, ce qu'on leur dit, les subventions, ok, quand on peut en avoir, ok, c'est très bien, c'est super, mais on peut pas toujours en avoir. C'est l'établissement qui doit générer des résultats. Et la semaine dernière, nous étions en réunion des directeurs. On a fait venir le groupe KPMG, qui a expliqué ce que c'était que les ratios de gestion, ce qu'il fallait consacrer à l'investissement. Donc ce qu'on appelle le taux d'effort en termes techniques, on fait toutes ces formations-là, qu'à France, ça sert à ça aussi. Mais il ne faut pas que compter sur les autres pour pouvoir gérer sa maison rénovée, il faut progressivement faire une gestion qui vous permet de rénover vos maisons.
Je vais vous poser une question un peu provocante. Est-ce que le modèle est menacé, compte tenu de la situation?
Alors moi, je vais vous répondre crûment, les bons tiendront. Les bons tiennent. Il faut faire une bonne gestion. Voilà. Après, il y a eu à l'origine des villages de vacances, des implantations de villages de vacances un peu n'importe où pour faire du développement du territoire. Il y a aujourd'hui des villages de vacances qui sont placés dans des territoires qui n'ont pas d'avenir. Faut le dire. Les gens...
Il
faut savoir arrêter et faire autre chose, faire un autre projet ou autre. Et donc, ceux qui sont dans un territoire qui est défendable au niveau touristique et qui font une bonne gestion, il y a de l'avenir. Et on voit bien à Cap France, on n'a aucun problème avec les villages.
Mais structurellement, le concept même du village de vacances, avec la connotation familiale et sociale, n'est pas menacé.
Alors, très...
Sur le principe, par les politiques, les élus, tous ceux que vous côtoyez, ils y tiennent.
Ah ben oui, ils y tiennent. D'ailleurs, les politiques sont conscients qu'on perd des villages vacances chaque année, parce que il y en a qui disparaissent, il n'y en a pas qui se construisent, en gros. Et il y a beaucoup de résidences de tourisme qui se construisent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait.
Je fais bien.
Parce que souvent, quand vous parlez de villages vacances, les gens ils vous parlent de Pierre et Vacances et tout ça.
Rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Là, on pourrait faire une soirée thématique que là-dessus. Donc, le village vacances tel que vous voyez ici... Il a eu une période de menace. On en a perdu beaucoup. Je pense qu'on est sur un plateau.
Et un rattrapage.
Et ceux qui restent, je disais ce matin que rien qu'à Cap-France, il y a eu 36 millions d'euros cette année d'investis.
C'est pas neutre.
C'est loin d'être neutre. Et ceux qui restent aujourd'hui sont plus solides.
Parmi les adhérents de Cap-France, aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. On est d'accord.
On a eu très peu de casse avec le Covid.
L'impact au Covid a eu très peu de casse. Alors justement, je vais passer à...
A eu très peu de casse, juste grâce aux aides qu'il y a eu quand même.
Ah, mais attendez, c'est sûr.
On est d'accord.
Absolument. Quoi qu'il en coûte, ça s'adresse aussi à l'économie sociale.
Et ça
s'est d'ailleurs surtout adressé à l'économie sociale, même si parfois on peut déplorer qu'au sortir de la crise sanitaire, il y a certaines subventions qui ont été revues un peu à la baisse. Mais voilà, je pense à quelques dossiers, mais c'est important de défendre le modèle. Fleur et Neige aujourd'hui, c'est une maison qui ne vit que grâce à la vitalité du conseil d'administration. Ça se voit. C'est pas uniquement l'exécutif qui fait tourner la boutique. Il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises et un engagement fort. Est-ce que ça tient pas à ça, finalement, dans une certaine mesure? Comme le rappelait André, il faut être un bon gestionnaire. Mais je prends un exemple. Il y a des entrepreneurs de formation, des gens de très haut niveau, capables de donner des compétences. C'est important, ça, et de s'impliquer.
On a de sacrées compétences au sein du conseil d'administration. Comme tout de suite, je vais citer quelqu'un qui n'est pas là actuellement, notre trésorier, par exemple, qui est un PDG qui avait trois sociétés. peux vous dire, il est maintenant juge au tribunal de commerce. Il lit les bilans à une vitesse grand V. Je peux vous dire qu'on a des personnes super compétentes.
Oui, il connaît le montage.
Il connaît tous les montages.
Vous avez évoqué la BPI, par exemple. Tout à l'heure, vous disiez, oui, alors vous savez, vous adressiez au banquier, d'ailleurs, très, très marrant, d'ailleurs, adressez au banquier, etc. La BPI, ça vous rassure.
Oui, c'est clair que...
S'ils engagent avec nous, c'est plus facile de s'engager.
Notre premier contact avec notre banque habituelle n'a pas été bon.
Bah oui.
C'est lorsqu'on a commencé à montrer qu'on avait la subvention de la région et que la BPI allait
ils ont ouvert le
dossier, qu'ils ont ouvert. Hein, et c'est évident.
Ouais. C'est pas évident quand même avec les banquiers aussi d'essayer. Enfin bon, ça sera un autre débat aussi de voir aussi le rôle que peuvent avoir les banquiers comme lien social. Parce qu'entre nous, quand je prends l'association, que je vois les éléments que j'ai pu recueillir aujourd'hui, je vois une extraordinaire. Alors je dis pas que ça peut pas être fragile. J'ai dit que c'est extraordinairement stable. Donc ça aussi, ça mérite une certaine reconnaissance, n'est-ce pas, Nadia? Justement, quand vous avez des talents comme Nadia Bouillet qui rejoint...
Qu'est-ce qu'on est content de la voir?
C'est extraordinaire.
Oh, quelle joie.
Écoutez, c'est simple, Nadia Bouillet, elle a tout pour elle. Voilà, c'est ça. Elle a ce qu'on appelle l'art et la manière, la musique et les paroles. Donc... Oui, c'est vrai.
C'est gentil, Sylvain. Et je pense qu'il faut, aussi, voilà, comme vous le disiez très bien, saluer tous les bénévoles qui s'engagent justement dans le réseau associatif, dans toutes les associations affiliées à Cap France.
Mais qu'est-ce qu'on ferait sans les bénévoles?
C'est ces bénévoles qui, je dirais, au quotidien, portent ces valeurs. Et puis tous les salariés aussi du réseau, qui, quand ils rejoignent ce réseau, rejoignent aussi ces valeurs.
C'est comme les élus locaux. Vous savez, tout à l'heure, on était avec la députée Émilie Bonivard et la conseillère départementale Nathalie Furbert. Et je leur disais, voilà, à peu près, vous savez que tous les jours, il y a environ entre 600 000 et 700 000 élus locaux qui travaillent gratuitement. Mais gratuitement, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas les moyens d'être rémunérés ou alors avec des indemnités tellement ridicules. J'ai pas fait l'affront au maire de demander quelle était son indemnité de maire pour un village de 1000 habitants. Enfin, c'est juste ridicule quand on voit l'exposition que l'on a. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est très français dans notre culture et qu'il faut savoir préserver. C'est justement ce niveau de l'engagement collectif. Faut pas oublier que c'est la France qui a inventé la coopérative, c'est la France qui a inventé les mutuelles, c'est la France qui a inventé le logement social à Guise au 19e siècle. C'est la France qui a créé ces cohésions. Alors effectivement, à l'époque, il y avait des climats peut-être un peu religieux, protestants effectivement ou catholiques. Néanmoins, on a su effectivement travailler ce collectif et vous êtes un peu l'émergence quelque part de ces modèles. Est-ce qu'il y a une jeune génération, André, qui va prendre la suite après? Est-ce que vous avez de l'espoir parmi tous ces conseils d'administration que vous fédérez aujourd'hui? Vous êtes heureux de voir ça? Objectivement.
Alors, dire qu'il y a... oui, d'abord, je suis... Le système associatif, coopératif, tout ce qui est bénévole et même les élus.
C'est génial.
C'est génial.
Il faut le préserver, ça.
En plus, ça cohabite bien avec le système économique. Hein. On est bien
Et puis, ça fait du bien aux gens, au peuple. Parce qu'on ne peut pas être gouverné que par des lignes et des allocations d'actifs. Quoi.
On est d'accord.
À un moment donné, il faut
bien
aussi...
Bien sûr.
Ça fait du bien.
Maintenant, sur la relève, c'est de ça que vous parliez, de la relève.
Ben oui, la relève.
Alors,
je dis pas que vous allez...
Non, mais...
C'est important, voilà.
Mais y compris à Cap France, Dominique le sait, on ne fait que penser à ça, justement. D'ailleurs, dans mon conseil d'administration, j'ai massivement fait entrer des jeunes aux dernières élections, vous voyez. Mais on regarde, on va voir. Il y a des jeunes qui se mobilisent assez facilement. Après, il faudra qu'on regarde sur le long terme. Sur la durée. Hein. C'est facile de mobiliser rapidement, très vite, d'intéresser. Mais sur la durée, on va voir. Je dis pas non. Je dis qu'on va voir. C'est pour ça que quand on essaie d'évoluer, de faire entrer les jeunes, il faut mixer avec les anciens pour accompagner. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus, Dominique Gérard?
Mais pour Fleurs et Neiges, beaucoup de clients, enfin beaucoup de vacanciers qui redécouvrent Fleurs et Neiges, le nouveau Fleurs et Neiges, et une animation extraordinaire.
Et il y a une belle saison qui s'annonce, hein. Il y a beaucoup de neige.
Ouais.
Je le dis à nos amis qui nous écoutent, venez, c'est très pratique, on trouve très facilement, c'est fluide. Et en plus, on est au pied des pistes. Enfin, si vous aimez la neige, c'est juste extraordinaire. Donc, on vous souhaite que des belles choses, Dominique Gérard. Et à vous, Nadia, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus avec Fleurs et Neiges?
Une belle saison.
Une belle saison.
Et
plein de personnes.
Beaucoup de vacanciers heureux.
de vacanciers heureux et qui partagent les choses. Voilà, j'étais ravi de vous avoir. Oui, vous voulez rajouter, Dominique ?
Juste, on a peut-être un peu oublié de parler des classes que nous recevons aussi.
Oui, dites-nous un mot.
Et simplement, on a a priori, je crois qu'on a, on a une quinzaine de classes qui doivent venir entre janvier et mars. Je ne sais pas si c'est 15, je regarde.
Classe de neige. Hein,
classe de neige. Oui, ouais, donc c'est quand même ce que disait la députée Émilie Bonivard.
Il faut qu'elle continue à venir.
Il faut qu'elle continue à venir. Et ça, avec le Covid, on est un petit peu inquiet. Pour les professeurs, on
est un peu plus.
Mais c'est quand même les futurs skieurs qui vont revenir avec leur famille plus tard.
Donc, c'est hyper important. Ça représente un point. Dans les stations de ski, ça représente un point.
C'est très important. On a les classes de neige, on a les classes de découverte aussi à la mer qui sont importantes. On a effectivement interrogé le ministère cette semaine par rapport à ça. Mais eux-mêmes, on a très peu de visibilité. On peut pas dire que nos dirigeants se débrouillent mal. On a très peu de visibilité sur le développement de la maladie. Donc, c'est très compliqué à dire. Mais c'est sûr que ce sera un vrai problème. L'assurance qui nous a été faite, c'est que de toute façon, s'il y avait un problème, il y aurait à nouveau les aides. Alors, on n'a pas envie de vivre d'aide.
Ce ne seront pas des futurs skieurs.
C'est clair. On ne peut que vous souhaiter que les choses aillent bien. Aille bien pour vous, aille bien pour tous ceux qui nous écoutent, bien évidemment, parce qu'on n'est quand même pas tout à fait sorti de l'auberge à ce niveau-là. Mais encore une fois, on maîtrise plutôt bien la situation quand on se rappelle. Encore faut-il se rappeler, rappelez-vous, du premier confinement qui a terrorisé absolument tout le monde. On a quand même un sacré recul. Et moi, je vous garantis, je vais faire une prophétie. Vous aurez toutes les classes de neige cette année, vous allez voir.
J'espère.
Voilà. Et si c'est le cas, je reviens vous voir en mars et on fêtera ça dignement.
J'applaudis dès demain.
Voilà. Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci André Manchy, vous êtes le président de Cap France, et on peut aussi aller dans votre village de Trégarvan pour ceux qui aiment la... Bon, moi j'adore la pêche, donc je suis un pêcheur. Je vais souvent dans votre coin et j'irai certainement vous voir avec grand, grand plaisir. Merci à vous Dominique Girard, président de Fleurs et Neiges ici à Aussois, une station où on peut venir l'été, mais aussi l'hiver. Il y a toujours quelque chose à faire ici. On pourrait même faire une rime autour de cela, sous le champ des allobroges du pays savoyard. Voilà, ça nous fait extrêmement plaisir. Et puis encore merci à Nadia Bouillet, qui nous a permis d'être ici et de découvrir ce formidable. Dès que vous avez des plans comme ça, il faut surtout nous appeler. Hein. Avec Olivier, va forcément y aller. Les amis, voilà, c'est à retrouver bien sûr en podcast, comme d'habitude. Partagez, likez, commentez. La vérité, elle est dans les territoires et la France a toujours, toujours un incroyable talent. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
L'immobilier de tourisme au cœur des territoires, journée découverte en Savoie avec l'association Maison Familiale Fleurs et Neiges, à suivre depuis Aussois près de Modane sur Radio Imo et Radio Territoria.